Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour, Gilles Averousse, maire de Châteauroux.
Bonjour.
Et président de Châteauroux Métropole depuis 2014, ville chère à mon cœur que je traverse et où je m'arrête régulièrement. On voulait faire un point aujourd'hui sur l'immobilier. On a vu les grandes campagnes de communication que vous avez faites pour attirer du monde, que ce soit d'ailleurs des touristes ou peut-être aussi des Parisiens qui, avec aujourd'hui le besoin d'aller vivre ailleurs, vont peut-être venir repeupler le centre-ville. Où en est aujourd'hui les orientations après cette année tout à fait particulière du Covid, de l'urbanisme chez vous et des attentes que vous pouvez avoir sur l'accueil de nouvelles populations?
Alors l'urbanisme, c'est vraiment une politique essentielle pour nous. Vous parliez à l'instant effectivement des incidences liées à la crise sanitaire, à la volonté de la population des grandes métropoles de venir s'installer un peu plus au vert, un peu plus dans les villes moyennes et dans les territoires ruraux. On le ressent pleinement avec une population plutôt issue de l'Île-de-France qui cherche effectivement de l'immobilier accessible, peu cher, dans lesquels il y a besoin de travaux, et c'est particulièrement le type de produit qu'on a chez nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre situation, Châteauroux, 45 000 habitants, une ville de 74 000, une agglomération de 74 000 habitants, qui a un parc immobilier qui a évolué, mais dans un département dont la démographie était plutôt déclinante ces dernières années, et qui nécessite en fait une modification de l'offre, c'est-à-dire une rénovation d'appartements, de logements de centre-ville qui avaient été abandonnés au profit plutôt de pavillons périphériques, mais de maisons également qui sont situées au bord des boulevards, c'est-à-dire de la ceinture périphérique du centre-ville, qui disposent de jardins, qui n'étaient plus les produits forcément recherchés ces dernières années et qui redeviennent aujourd'hui des éléments attractifs.
Et donc, l'enjeu pour nous, c'est ça. Il va y avoir un équilibre, en fait. Aujourd'hui, vous allez plus investir dans la rénovation que dans le neuf. En fait, on arrive à un paradoxe assez étonnant. Vous le savez comme moi, la FPI et beaucoup de gens disent « mais cette année est catastrophique parce qu'on a peu construit ». Et pour autant, on a appris la semaine dernière, jamais il y a eu autant de transactions. Il y a 1 million de Français qui sont devenus propriétaires. Donc c'est plutôt l'ancien qui fonctionne. Et le neuf, est-ce que vous êtes prêt à le soutenir aussi?
C'est ça. Alors le neuf, évidemment, on va continuer à le soutenir parce qu'on a besoin toujours d'avoir une offre qui se renouvelle, mais on va largement diminuer notre production d'immeubles neufs. Pour vous donner des chiffres précis, on avait des objectifs ces 10 dernières années qui étaient plutôt de 300 constructions neuves par an. On va passer aujourd'hui simplement une centaine pour porter tous nos efforts sur la rénovation de l'ancien, pour lesquels on n'avait pas de dispositif d'accompagnement. C'est-à-dire qu'un couple primo-accédant ou un primo-accédant en général qui investissait dans un pavillon neuf, on lui versait une prime qui était variable en fonction de la ville dans laquelle il s'installait. Plus vous étiez en centre de l'agglomération, plus la prime était forte et il n'y avait pas de prime à l'acquisition de l'ancien. Aujourd'hui, on participe à l'acquisition de l'ancien et aux travaux dans l'ancien pour que ce soit suffisamment important afin que ce soit déclencheur pour l'acquéreur et que ça arrive à le convaincre effectivement d'investir dans l'ancien plutôt que dans le neuf.
Alors dans l'ancien, j'imagine qu'on est peut-être plutôt dans le cœur de ville, et encore peut-être que non, avec des pavillons qui ont déjà quelques temps. Mais parallèlement, vous aviez aussi des zones en rénovation urbaine. Quel est l'équilibre entre ces deux modes de ville qui cohabitent l'une à côté de l'autre?
Donc l'enjeu aujourd'hui, quand on construit du neuf, c'est déjà de le faire en compensation de démolition d'anciens. Vous parliez de la politique de renouvellement urbain. On a un quartier d'intérêt national et un quartier d'intérêt régional. On va démolir à peu près 800 logements, en reconstruire 40%, c'est-à-dire un peu plus de 300 logements. Sur ces 300, 100 vont être construits sur les quartiers même, puisqu'on a la chance d'avoir des quartiers politiques de la ville qui sont situés à proximité du centre-ville. Donc ce sont des zones intéressantes pour les familles qui s'y intéressent. Et les deux tiers supplémentaires, donc 100 logements, vont être en centre-ville et la dernière centaine sera sur le reste de la ville et de l'agglomération. Voilà, on incite vraiment aujourd'hui à avoir une mixité de l'habitat et une reconquête du centre-ville dans le cadre des politiques nationales. On parlait de celle de renouvellement urbain, donc avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, l'ANRU. Mais on a également sur Châteauroux la politique nationale Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser, à ramener de l'activité dans le centre. Et on a également tout le dispositif Petite Ville de Demain pour lesquels, dans notre agglomération, la commune de Déol et la commune d'Ardentes ont été labellisés et sont en train de déployer leur programme d'action.
Quels sont vos espoirs? J'entends dire qu'a priori, à Châteauroux, il y a à peu près 16% de logements vacants. Avec cette nouvelle envie des Parisiens ou des métropolitains de venir dans des villes de taille plus moyenne, vous espérez, à la fin du mandat, arriver à 8% de logements vacants? Vous souhaitez accueillir combien de personnes?
C'est exactement ça. L'objectif pour nous, c'est de remettre sur le marché la moitié des logements vacants. En fonction des estimations aujourd'hui, des données statistiques dont on dispose, on sait que c'est entre 4 000 et 5 000 logements qui sont vacants et qu'on souhaiterait, donc pour moitié, donc ça fait quand même un nombre important, remettre en commercialisation, soit par une cession, c'est-à-dire une accession à la propriété pour ceux qui vont devenir nouvel acquéreur, ou soit le fait que le propriétaire le conserve mais le rénove pour le mettre en location.
Et aujourd'hui, le développement, le tissu commercial, économique est prêt à accueillir toutes ces populations. Il y a une offre bien équilibrée qui va permettre à des familles de se dire « je veux aller à Châteauroux, j'aurai l'école pas loin, le commerce, l'activité en centre-ville ».
Tout ça est très bien. Absolument. Toutes ces politiques sont liées. La première qu'on a mise en place, elle date de 2017, c'était de ramener de l'activité commerciale dans le centre-ville. Donc on a à disposition d'aide au loyer qui a été créée, mise en œuvre. Et aujourd'hui, au terme des 3-4 premières années d'exercice de cette nouvelle politique, le bilan il est plutôt très intéressant puisqu'on est au-delà de 40 créations nettes. C'est-à-dire qu'on fait le solde entre les ouvertures de magasins, d'enseignes et les fermetures dans le centre-ville. On est à plus 40 en moins de 4 ans, avec l'année particulière évidemment de 2020-2021. Donc c'est une belle dynamique et on est souvent montré en exemple au niveau national pour justement cette politique commerciale de redynamisation commerciale du centre-ville. Aujourd'hui, on commence à manquer de cellules en centre-ville. De grandes cellules, on n'en a plus, et des petites, on en manque. Et puis, à côté, on a tout un dispositif d'accompagnement du développement des entreprises. Nous avions encore jusqu'à 2-3 ans des difficultés à accueillir des cadres. On a mis en place un dispositif pour tous les nouveaux arrivants qui permet de manière très personnalisée d'accompagner celles et ceux qui viennent travailler sur le territoire. En trouvant effectivement une école pour les enfants, un travail pour le conjoint, une crèche. On a tout un dispositif d'accompagnement de ces nouveaux arrivants qui leur permettent d'avoir des apéritifs de rencontres régulièrement. Et le département de l'Indre, dont on est la préfecture, nous a demandé de déployer pour son compte ce dispositif à l'échelle départementale, tant les résultats et la satisfaction des nouveaux arrivants donnaient envie à d'autres de les rejoindre. Et du coup, nécessitait de déployer, d'étendre le dispositif à l'échelle entière du département.
En tout cas, bravo pour les commerces. Comme vous le savez peut-être, on a lancé il y a peu de temps un club cœur de ville. On avait une rencontre avec Caroline Cailleux et plusieurs de vos collègues d'autres mairies arrivent à attirer aujourd'hui des populations dans des logements. Mais par contre, sur le commerce, ce n'est pas tout à fait l'histoire que vous racontez. Donc si on peut faire un transfert de savoir-faire pour d'autres, je crois que c'est très important que les communes se parlent entre elles. Il y a un autre sujet que vous voulez développer, c'est l'utilisation du permis de louer. Pour notamment lutter contre l'habitat indigne. Comment voyez-vous les choses dans les années qui viennent? Et vous avez quelle part de copropriété dégradée et d'habitat indigne dans la ville?
Donc là, c'est une politique vraiment audacieuse parce qu'on est, nous, de sensibilité plutôt libérale. Donc on n'est pas pour rajouter des règles. Simplement, comme on le disait tout à l'heure, l'enjeu pour nous, c'est de remettre sur le marché des logements vacants, généralement vétustes. On a tout un tas de dispositifs d'accompagnement, les OPA de renouvellement urbain, des aides complémentaires de l'agglomération, les aides générales classiques, c'est-à-dire de droit commun de l'Agence nationale de l'habitat. Simplement, on peine quelquefois à le faire savoir, à le faire comprendre auprès des propriétaires. Et on a des indices qui nous laissent entendre qu'un certain nombre de logements, généralement, au gré des changements de ces logements, c'est-à-dire un locataire, tant qu'il est dans l'appartement, il a un peu peur de se plaindre du propriétaire. Quand il s'en va, il nous envoie une lettre en disant « voilà, moi je viens de quitter tel logement et je vous signale qu'il n'était pas aux normes de décence qu'on pourrait être en droit d'exiger ». Et donc, pour essayer d'être très efficace et rapidement efficace en la matière, on a décidé d'instaurer ce permis de louer qui permettra à la collectivité, qui en prend en charge tous les frais, donc c'est gratuit pour le propriétaire, de pouvoir vérifier à chaque changement de locataire que les locaux sont décents. Et si ce n'était pas le cas, et si on repérait une nécessité de travaux, ne serait-ce d'ailleurs que des travaux d'isolation, d'amélioration thermique, eh bien, ça nous permettra d'offrir une prestation de conseil et d'informer le propriétaire des droits qui sont les siens et des aides qui peuvent l'accompagner à faire les travaux.
Oui, en fait, il y a beaucoup d'aides aujourd'hui, semble-t-il. Certains disent qu'il manque des guichets uniques pour aider des propriétaires qui ne savent pas qu'on peut les aider à refaire leur logement pour les relouer demain. Et donc, vous devenez l'interlocuteur privilégié dans ces cas-là.
C'est ça, en lien avec l'Agence départementale d'information sur le logement, l'ADIL, qui est très active dans notre secteur et avec laquelle on travaille toujours main dans la main entre les services de Châteauroux Métropole et ceux de l'ADIL.
Vous le savez, il y a prochainement le projet de loi 4D qui devient d'ailleurs 3D avec un S, 3DS pour le S de simplification qui veut accorder davantage de pouvoir aux intercommunalités en matière de logement. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles compétences accordées aux intercommunalités, sachant que vous dirigez les deux de votre côté, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres de vos collègues?
Je pense que l'échelle intercommunale est la bonne échelle en termes de politique de logement. Souvent, on a opposé les villes entre elles, notamment les villes centres et les villes périphériques. Et cette compétence décernée, exercée par les intercommunalités, elle est aujourd'hui intéressante et elle porte des fruits là où ça se fait en bonne intelligence. Donc, les dispositions prévues dans la loi 4D vont dans le bon sens. J'allais dire au bémol près que cela nécessite des moyens quand même et que toutes les intercommunalités n'ont pas la même taille, n'ont pas les mêmes compétences en termes d'effectifs, n'ont pas toutes les mêmes capacités financières à se doter de personnel suffisant pour suivre ces politiques qui demandent quand même une forte imprégnation, une forte implication. Quand l'État le faisait, l'État avait des moyens à disposition et pouvait répondre à toutes les communes de manière égale sur le territoire. En délocalisant à l'échelle intercommunale cette compétence, c'est bénéfique si les moyens suivent. Simplement, on sait que dans ces politiques-là, comme dans d'autres, le transfert de compétences fait généralement sans transfert de moyens entre l'État et les intercommunalités. Voilà, donc je pense qu'il va falloir être assez vigilant à ce que l'État ne se désintéresse pas totalement de cette politique de l'habitat, sinon il risque d'y avoir des différenciations importantes et une sorte d'inéquité de traitement entre tous les territoires.
Mais s'il y avait quelque chose à changer, puisqu'on est à un an de l'élection présidentielle, dans une nouvelle forme de soutien de l'État à l'habitat, qu'est-ce que vous suggériez à des candidats ?
Il y a beaucoup de candidats qui disent et qui prônent justement la reconversion du patrimoine existant en disant que c'est vertueux et que ça lutte contre l'extension foncière et contre la suppression de terres agricoles. Je pense que les candidats doivent avoir conscience que pour les habitants, on a besoin d'un habitat de typologie variée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans des appartements, on ne peut pas supprimer complètement les zones pavillonnaires et que forcément la rénovation, elle a un coût plus fort très souvent que la construction de neuf en périphérie. Et que donc, si on veut être vertueux, et il faut l'être, il faut accompagner les collectivités dans leurs aménagements, les propriétaires dans les travaux de rénovation, et puis également peut-être former certains fonctionnaires à ces mutations de l'offre de logement. Je pense notamment aux architectes des bâtiments de France, pour bien leur faire comprendre que le produit recherché aujourd'hui sont des produits plus lumineux, avec plus de baies vitrées, avec peut-être quelquefois des percements à faire sur des toitures pour amener la lumière dans l'habitat, et que malgré l'intérêt des zones de protection, il faut pouvoir concilier les deux. La défense du patrimoine, mais aussi la modernisation du patrimoine, sans bien évidemment défigurer les environnements. Voilà, donc il faut bien avoir conscience qu'en termes de logement, les choses ne sont pas noires ou blanches, que c'est souvent un mélange de politiques additionnées qui font qu'on a du résultat.
Merci.
Et qu'entre le moment où on décide de quelque chose et le moment où ça se met en place, il y a du temps quand même à la mise en œuvre.
Merci. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. On voit que vous avez aujourd'hui des orientations très claires. Bravo pour ce que vous avez fait sur les commerces, pour les orientations que vous avez, notamment pour diminuer le nombre de logements vacants. N'hésitez pas à vous arrêter à Châteauroux sur la route des vacances, mais on voit qu'on peut aussi y vivre parce que les choses bougent beaucoup. Merci Gilles Laverousse et très bonne journée.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.